Jacques Cheminade, je suis candidat à la présidence de la République.
Votre position concernant les OGM et les pesticides, ainsi que les perturbateurs endocriniens, des éléments qui sont souvent évoqués dans la société et qui peuvent faire peur.
Mais il y a une autorité européenne de surveillance et de contrôle des OGM. Je crois qu'il faut la laisser fonctionner, à condition évidemment qu'elle ne soit pas partisane. Comme notre autorité de sûreté nucléaire, qui n'est pas partisane non plus. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Moi, je suis réservé sur la génétique en soi, parce qu'on peut jouer à Dieu ou à je ne sais pas quoi sur ces choses-là. Quelqu'un comme Dawkins disait que c'est les gènes qui dominent l'homme. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette conception-là. Ça, on se met faire de la génétique sans rivage et sans contrôle. Donc, mais les OGM peuvent être dans certains cas utiles, si on pense à ce que disait le père de José Bové, si on peut mettre dans certaines des remèdes dans certains cas, et en le limitant aux régions où se posent certains types d'épidémies ou de maladies, et si on peut l'inclure dans une OGM, pourquoi pas, mais avec un contrôle et une surveillance draconienne. Même chose pour les pesticides et quant aux perturbateurs endocriniens, on a laissé passer et ça a été un désastre.
Vous avez parlé du contrôle. Est-ce que vous êtes satisfait de la réglementation actuelle ou est-ce qu'il faudrait la rendre un peu plus, un peu plus sévère?
Moi, je ne suis pas compétent sur cette question. Je pense qu'on doit laisser à des savants, à des scientifiques, et également à des politiques qui se sont occupés à fond de cette question, la réflexion sur ce sujet et considérer deux choses. D'un côté, comment on peut apporter une densité de flux d'énergie la plus grande dans une société, et de l'autre, comment traite-t-on les déchets provoqués par cette énergie plus grande? Et de ce point de vue, il y a des cas où on devrait expliquer qu'une éolienne, eh bien, il y a dessous, il y a du béton, il y a tout un démontage à faire, et que ça doit être pris en compte. Donc on le dit pour le nucléaire, c'est vrai, il faut le faire également pour tout, et mesurer ce que ça fait en impact à la fois environnemental et social.
Le principe de précaution est aussi quelque chose qui est présent dans le débat actuellement. Votre position par rapport à ça ?
Moi, je pense qu'il aurait jamais dû, que c'est absurde d'avoir introduit dans la Constitution. Je suis plus pour le principe de responsabilité qui avait été évoqué dès 1979 par quelqu'un dont je ne partage pas les conclusions, mais qui est intéressant, qui est Hans Jonas. On a établi à partir de ce principe de responsabilité, le principe que les générations à venir ont un droit. Et je pense que c'est très important de le voir de cette manière. Alors lui, Jonas, dit que l'homme n'a pas pire ennemi que l'homme. Oui, dans certains cas, si l'homme ne prend pas ses responsabilités, et ça, c'est une question sociale, une question d'ensemble, où il faut former, et ça c'est la politique d'éducation et de formation, des êtres humains qui pensent en termes et du futur, et de ce qui se passera dans le futur, et en même temps de l'effet de ce qu'on introduit dans une société ou ce qu'on n'introduit pas, encore une fois.
Vous parlez de principe de responsabilité. Depuis une dizaine d'années, on a vu émerger dans notre société des scandales sanitaires liés à l'industrie, notamment pharmaceutique. Comment peut-on faire pour éviter ces scandales ?
On a laissé faire l'industrie pharmaceutique. Il y avait des institutions qui auraient pu l'éviter, mais il faut les revitaliser et leur redonner la capacité d'intervenir, que là, elles sont tout à fait complaisantes avec l'industrie pharmaceutique. Alors si vous avez l'industrie pharmaceutique et la finance, que je dénonce, alliées dans une conception de bénéfices ou de profits à court ou moyen terme, et de l'autre côté, vous avez des autorités qui ne contrôlent pas, eh bien, il faut que ces autorités ne soient pas liées et interdire qu'elles soient liées à l'industrie pharmaceutique. Et les scandales, c'est qu'on a vu que ces liaisons coupables, ces liaisons dangereuses, étaient partout parmi ces responsables. C'est ça qu'il faut interdire.
Alors, plus largement, selon vous, comment financer la santé publique ?
Il faut sauver la sécurité sociale et sauver l'hôpital public. Ça, c'est la première chose. Alors, où trouver l'argent ? La sécurité sociale a été dépouillée. Il y avait des choses prévues pour la sécurité sociale qui étaient détournées par le gouvernement pour autre chose. Il y a le chômage qui s'est produit et qui diminue les moyens de la sécurité sociale. Bref, il y a tout un financement de la santé publique qui deviendrait beaucoup plus évident et plus facile de la part d'un gouvernement si on rétablissait la croissance et le développement économique. Et c'est là qu'est la clé du financement de la santé publique. Ce problème s'opposait moins ou ne s'opposait pas au moment des Trente Glorieuses où il y avait un développement économique. Et il y avait en même temps une sensibilité pour ce qui était pour le futur et pour ce qu'on deviendrait, qu'on aurait une meilleure société dans le futur. Si on rétablit ça, le financement de la santé publique devient possible et on peut donner du crédit même à la santé publique pour la développer. Ce crédit étant remboursé par les avantages, évidemment, qu'on obtiendra en le faisant, et les économies. Et ça pose tout le problème, qui est la chose qui manque le plus en France. Certains autres candidats l'ont déjà dit, qui est la prévision et la prévention. Il faut financer à tout prix et développer à tout prix, qui fait partie de la question que vous avez posée précédemment sur comment sensibiliser dans l'énergie, mais aussi dans la santé et l'alimentation. Alors, dans la santé et l'alimentation, c'est extrêmement important, parce que c'est là qu'est le principe de responsabilité. Parce que si vous fumez ou si vous avez un régime alimentaire qui n'est pas celui qui serait le meilleur pour l'être humain, ben, il y a des conséquences de coût, il y a des conséquences sociales. Et ça, il faut montrer aux gens ce qu'elles sont, et à chacun de déterminer selon sa conscience, bien sûr, mais il faut qu'ils sachent où ils vont.
Comment, selon vous, organiser la recherche scientifique en ce qui concerne les problématiques de santé ?
Ben, il y a une autre autorité de santé, et je pense qu'elle doit être liée à les formes du ministère de la recherche pour une réflexion sur la recherche scientifique et le côté, bien sûr, éthique de la recherche scientifique. Et c'est là que doit se situer une réflexion. Je pense qu'il ne faut pas trop disperser les choses.
Quelle est votre position concernant la PMA et la GPA ?
Alors pour la PMA, je pense que je suis convaincu par les réflexions qu'ont eues des médecins sur cette question. Si on la réserve à certains couples ou à certaines femmes, c'est très difficile d'éviter l'arbitraire. Donc pour la PMA, je pense qu'on ne va pas chercher pour quelles raisons, pour quels moyens, de façon avec inquisition, une certaine forme d'inquisition, pourquoi il y a un recours à la PMA. Je pense que toutes les femmes, avec des précautions de jugement dans chaque cas, devraient pouvoir bénéficier de la PMA. Quant à la GPA, non, parce que c'est l'occasion des ventres, et c'est pour moi une expression d'un système capitaliste financier qui met de l'argent partout.
Quelle place, selon vous, consacrée à la bioéthique dans la recherche scientifique ?
Il faut qu'elle ait une place absolument fondamentale et qu'on réfléchisse notamment à toute la question du génie génétique et de la biologie de synthèse. Donc, ce qui est à la fois un espoir et une terrible menace.